On est très heureux de vous retrouver ce soir et de vous retrouver nombreux. C'est un plaisir. Tous les rangs de chaises sont pratiquement occupés. C'est une grande joie et ça ne m'étonne absolument pas qu'il y ait un public nombreux qui vient écouter pour la deuxième fois Olivier Yolanda, hein, parmi nous. Deuxième fois, on dit jamais 203. Hein, donc, voilà. Alors, vous savez que après-demain. Dès demain soir, d'ailleurs, on va célébrer le transitus de Saint-François, on va célébrer la mort de Saint-François. Et donc, après-demain, c'est la Saint-François. Nous avons donc, comme chaque année, hein, comme depuis une quinzaine d'années qu'existent ces conférences des amis de la bibliothèque, nous avons une conférence autour de la Saint-François, sur Saint-François. Et cette année, nous avons profité de cet événement, de cette année jubilaire Murillo, puisque Murillo est né le 31 décembre 1617, mais qu'il a été baptisé le 1er janvier 1618. Donc on fête cette année le 4e centenaire donc de la naissance de Murillo. Murillo qui a beaucoup travaillé pour l'ensemble du monde franciscain. Odile Delanda a eu la très grande gentillesse de nous rapporter de Séville, il y a quelques mois, ce catalogue qui est le catalogue d'une exposition sur Murillo et les Capucins, parce que Murillo a retapissé de tableaux entièrement l'église des Capucins de Séville. Et vous voyez notre grand esprit d'ouverture, c'est que nous sommes ici dans un couvent de Capucins, mais nous n'allons pas vous parler justement de ces tableaux peints pour les Capucins, mais on va vous parler des tableaux que Murillo a peint pour un monument qui, lui, n'existe plus, mais dont les tableaux subsistent. C'est le couvent des franciscains, le grand couvent des franciscains de Séville. Alors, nous avons la joie d'accueillir Odile Delanda. Odile Delanda, grande spécialiste du siècle d'or espagnol, grande spécialiste en particulier de Zurbarán. Vous êtes auteur quand même de la grande monographie qui fait référence sur Zurbarán. Mais bon, il n'y a pas... Il y a Zurbarán, mais il y a les autres aussi, dont Murillo. Et cette année, Odile, vous avez participé à un grand colloque international, c'était au mois de mai ou au mois de juin, quelque chose comme ça, qu'on pouvait suivre, nous, de loin. On se disait, ah, elle a de la chance, elle est invitée à ce grand colloque, elle a participé à ce grand colloque, avec les meilleurs spécialistes donc, de Murillo. Et vous nous faites l'amitié, Odile, d'avoir traduit votre communication. Et c'est un peu comme si on était ce soir au colloque de Séville, mais vous allez me la donner en français et vous allez donc nous parler des peintures donc de Murillo pour ce petit cloître des franciscains de Séville, parce que les franciscains de Séville avaient non seulement un grand cloître, mais ils avaient aussi un petit cloître. Merci Odile, on vous écoute avec beaucoup de joie ce soir.
Il est allumé, là ? Non ? On l'allume comment ?
C'est bon, ça va.
C'est bon, là ? Tout le monde m'entend, même dans le fond ? Très bien.
Il va falloir tout tenir.
Faut faire comme les chanteurs. Il faut manger son micro. Bon, ben, je vais essayer de ne pas trop manger mon micro. Alors, en fait, le titre de ma conférence à Séville était un petit peu plus pointu, puisque, je le traduis, c'était les franciscains de l'observance et le programme peint par Murillo pour le petit cloître du couvent Casa Grande de San Francisco de Séville, la grande maison des franciscains de Séville. Un immense couvent qui, effectivement, n'existe plus maintenant. Qu'est-ce que je fais pour les photos ? Je vous tape. Voilà, je dis. Voilà, on y va. On va commencer tout de suite. Alors, Bartolomé Esteban Murillo est donc bien né, comme nous a dit Pierre, le dernier jour de décembre 17. Il est baptisé le 1er janvier 18 et il est d'une famille, son père était chirurgien barbier, mais sa mère était d'une famille d'orfèvres et d'artisans. Donc il avait déjà, il évoluait déjà dans un milieu un petit peu artistique. Il est orphelin très jeune et il est recueilli par son beau-frère. En 1933, il entre en apprentissage dans l'atelier de Juan del Castillo, qui est un peintre un petit peu secondaire de Séville et qui était un cousin de sa mère, c'est un peintre baroque sévillan. Il quitte cet atelier en 1938 pour s'installer à Cadix, où il a trouvé un public local en peignant des tableaux pas très chers. Il est rentré à Séville, où les franciscains de la ville lui commandent 11 tableaux pour le cloître de leur couvent, dont la cuisine des anges, qu'on va voir tout à l'heure. Il peint également des scènes de genre, comme le jeune mendiant du Louvre, que vous connaissez bien, qui est à peu près de l'époque de la, justement de ce cloître des franciscains, 1645-1650. Il se marie en 1645, il aura 9 enfants. Comme souvent à cette époque-là, 5 de ses enfants ne vivront pas. Et dans ceux qui vivent adultes, une fille deviendra dominicaine et un autre fils deviendra religieux. Donc il est a priori quand même assez pieux. Il ne faut pas toujours croire que les peintres de tableaux religieux sont confiés en dévotion, mais lui apparemment c'était le cas. Sa renommée s'est consolidée avec ce cloître qui est sa première grande commande, et il va diriger bientôt un atelier très important. Il emploie des aides et des apprentis. Son œuvre, comme la plupart des peintres espagnols, sont des thèmes religieux, mais il est aussi un portraitiste, comme vous voyez dans son autoportrait que vous avez à gauche. Il a même peint des paysages. Il a peint beaucoup de scènes d'enfants et d'adolescence qu'il a fait connaître dès son époque en Europe, et c'est bien le cas du seul peintre du siècle d'or espagnol qui est connu hors d'Espagne, Marmont Velázquez. Et il a été d'abord marqué beaucoup par Sorbarán, évidemment, qui est le grand peintre de Séville, de tous les couvents religieux. Et petit à petit, il va être influencé par la peinture de Van Dyck, qui est une peinture beaucoup plus légère et délicate. Donc vous avez là l'autoportrait avec le texte, je ne sais pas qui est ici lisible, que je vous traduis. Bartolomé Murillo se peint lui-même pour répondre aux désirs, aux prières de ses fils. Donc il place ce tableau en 1668 pour ses enfants, à la demande de ses enfants. Et à droite, le jeune mendiant du Louvre. La suivante. Alors, il va falloir qu'on fasse un petit peu l'histoire religieuse des franciscains. Là, je reviens à Sorbarán, on n'est plus à Murillo, parce que il a peint Sorbarán davantage de d'ordre religieux, de fraction de l'ordre des franciscains. Ici à gauche, vous avez un franciscain de l'observance. Les commanditaires de Murillo vont être des franciscains de l'observance et porteront ce costume qui, comme vous le voyez, est différent de celui des frères capucins que vous avez au milieu, ou des frères alcantarins qui sont les frères de la plus étroite observance, car l'ordre, c'est, comme vous le savez, s'est énormément développé extrêmement vite dans toute l'Europe, et les frères franciscains dits conventuels suivaient une règle mitigée un peu par les papes, et certains franciscains trouvaient que c'était pas du tout l'esprit de Saint-François qui était chez les conventuels, et donc il fallait revenir à une stricte observance de la règle, et ils ont donc constitué un groupe de frères mineurs observants ou frères de la régulière observance, et ils ont eu tout de suite beaucoup de pouvoir puisqu'ils ont pris la possession du monastère de la Portiuncule, qui est donc le berceau de l'ordre. Les conventuels du coup ont décliné rapidement, particulièrement en Espagne. Le cardinal Jiménez leur enlève presque toutes leurs maisons qu'ils possèdent en Espagne pour les donner aux observants. En lançant son grand programme de réforme des ordres religieux en 1568, le roi des Espagnes, puisqu'il y en avait beaucoup, Philippe II, les abolit complètement dans la péninsule ibérique. Donc il n'y a plus de franciscains conventuels. Mais parmi ces observants, il y a ceux qui trouvent qu'ils ne sont pas assez observants, qu'ils ne sont pas assez retournés à l'esprit franciscain, ils ne sont pas assez pauvres. D'abord, le couvent est très riche, ça c'est vrai. Et donc, ils se créent des frères mineurs de la plus étroite observance. Leur principale congrégation, ce sont les Alcantarins. Vous avez un Alcantarin à droite. Et ça m'a amusé de retrouver dans les constitutions, les premières, de l'époque de Saint-François, tous les frères devaient porter des vêtements vils, mais ils pouvaient les rapiécer avec des sacs ou d'autres pièces, comme vous voyez l'alcantarin sur la droite, qui est donc son froc rapiécé. Et puis il y a deux autres branches de l'ordre qui se sont distinguées complètement des franciscains, qui sont nos chers capucins et les minimes. Le suivant. Alors là, je vous montre une vue de Séville qui est à peu près contemporaine du petit cloître des franciscains, pour que vous vous rendiez compte de l'importance des églises dans Séville et des couvents. On sait qu'il y avait au moins 30 couvents, il s'en est créé masculin, il s'en est créé d'autres tout au long du XVIIe siècle, dans l'esprit réformé du Concile de Trente. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir le numéro 15, qui est à peu près au milieu, San Francisco, qui est la Casa Grande de San Francisco. Elle est à gauche de la cathédrale. La cathédrale, évidemment, est avec la Giralda que vous voyez qui dépasse là. Alors, ce riche couvent, il est occupé par les frères franciscains de l'Observance depuis 1450. Malheureusement, on n'a pas retrouvé de documents sur la commande de Murillo, qui a été faite très vraisemblablement en 1644-1645, puisque le seul tableau daté, c'est la Cuisine des Anges, qui est de 1646. Et donc, on ne connaît pas le commanditaire qui a eu l'idée d'un programme extrêmement original pour ce petit quad des franciscains. La suivante. Alors, voilà tout ce qui reste du couvent Saint-François dans la partie gauche. C'est une partie de la mairie, c'est-à-dire l'Ayuntamiento de Séville, qui est ce magnifique porche du début du XVIe siècle. Et à droite, vous avez le plan du couvent avec le petit cloître qui est le numéro 25. Ce petit cloître, c'était celui qui donnait sur l'entrée, voilà, numéro 25. Non, vous êtes juste un petit peu au-dessus. Là, voilà, vous y êtes. Voilà le petit cloître qui donnait juste devant l'église. Il faut savoir que ces cloîtres espagnols, la suivante, servaient un petit peu de, grâce à leur tableau, de catéchisme en images ou d'histoire sainte pour les gens qui allaient pénétrer dans l'église et notamment les jeunes franciscains. Alors je vous montre deux choses qui existent encore alors que le couvent de Saint-François de Séville a été détruit au 19e. Il y a des tas de raisons, ce serait toute une histoire et il ne reste plus donc que ce porche. À gauche, vous avez ce qui est l'actuel musée de Séville, mais qui était le couvent de la mairie de Séville, et les tableaux de Murillo étaient installés contre le mur, comme dans le tableau de Carducho, qui est un petit peu plus tôt, de la Chartreuse du Polar, qui est de 1629. À partir de la fin du siècle, les tableaux étant assez abîmés, on les mettait derrière un rideau et on ouvrait le rideau. Mais c'est comme ça, vous avez un petit peu une idée de comment se présentait ce cycle très original. D'après un grand historien de l'art espagnol, Sam Bermudez, qui écrit une histoire de la peinture espagnole en 1800, il dit Murillo, qui était un jeune peintre, a accepté de faire cette commande parce que tous les grands peintres de Séville avaient refusé de la faire, parce que c'était trop mal payé. Moi je crois, parce que vous allez voir que les sujets sont quand même assez étonnants, qu'en réalité tous ces peintres ne savaient pas comment peindre ces tableaux qui n'avaient jamais été peints, qui n'avaient pas de précédent iconographique. Comme il n'y avait pas de précédent iconographique, il a bien fallu que les moines de commanditaire trouvent des sujets qui soient parfaitement décrits pour que le peintre puisse les rendre parfaitement dans sa peinture. Je me suis aperçu, ça a été la suite de mes recherches sur la Genèse de Murillo, que tous les sujets qui concernaient les peintres, les moines, les premiers moines compagnons de Saint François ou du début de la création de l'ordre étaient tirés des très célèbres Crónicas de la Orden dos Fractes Menores d'un frère portugais. Historien très sérieux et méticuleux qui a publié son œuvre, c'est-à-dire les chroniques de l'ordre des mineurs, en portugais bien sûr, en 1556 et 1562, et qui a été très vite traduit en 1562 par un frère Diego Navarro, espagnol de l'Observance. Tous ses frères sont des frères de l'Observance. Et je vous montre à gauche une édition de Saragosse, qui est une des éditions qui m'a servi pour retrouver les textes, qui évidemment je ne vais pas vous lire en espagnol, mais en français. Et je vous montre à droite une traduction française de 1606, où je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est bien composé par Marc de Lisbonne, mais traduit par Diego de Navarro, donc c'est à partir du texte de gauche qu'ont été traduits en français les textes de Marcos de Lisboa. Donc c'est à partir de ce texte que nous allons travailler, suivante. Et Pierre Moracchini, que je remercie ici, m'a retrouvé dans ses recueils, qu'il a ici, une édition de 1622, et c'est de cette édition en français que nous allons voir les textes qui ont inspiré les œuvres de Murillo. La suivante. Alors, à tout seigneur, tout honneur, évidemment que le fondateur est représenté, mais il est représenté ici dans un tableau qui, maintenant, tous les tableaux ont été dispersés bien avant la destruction du couvent. En 1810, comme vous le savez, les troupes françaises envahissent Séville, avec des maréchaux et des généraux à leur tête, le maréchal Soult, duc de Dalmatie, qui aimait beaucoup la peinture espagnole. Il aimait tellement la peinture espagnole qu'il n'a pas pu s'empêcher de repartir avec beaucoup de tableaux, qui a fait une très belle collection qui s'est répartie. Il y a eu plusieurs ventes au milieu du 19e, et du coup les tableaux sont répartis un petit peu partout dans le monde. Celui de Saint-François réconforté par un ange musicien, est à Madrid, à la Real Academia de San Fernando, et l'épisode est tiré du livre 2 des Chroniques, au chapitre 62. C'est une iconographie tardive, c'est pour ça que je vous montre la gravure de Carrache d'après Francesco Vanni. Pourquoi est-ce qu'on représente cet épisode qui était déjà raconté dans les vies anciennes de Saint-François, mais pas représenté? Parce qu'il y avait une espèce de concurrence avec les ordres nouveaux, ou les réformes de Sainte-Thérèse d'Avila, et les extases et les visions de Thérèse d'Avila ou de Saint-Ignace, qui venaient d'être canonisées en 1622 avec François-Xavier et Philippe de Néry. Ils voulaient montrer qu'eux aussi, les franciscains, ils avaient des extases, il n'y a pas de raison, et donc ils avaient des vues d'anges, etc. Alors voilà comment Marc de Lisbonne raconte en français comment le Seigneur visitait des consolations le Saint-Père dans les douleurs. Au milieu de la nuit, le saint étant éveillé, il entendit près de la cellule où il dormait jouer du luth le plus suavement qu'il avait entendu de toute sa vie. Et il lui semblait que celui qui jouait se promenait, car il entendait cette musique tantôt de près, tantôt de loin, faisant de ses différences la plus suave mélodie. Et le saint, découvrant que c'était l'œuvre d'un ange et non d'un homme, en était rempli d'une très grande consolation. Voilà ce que nous dit Marc de Lisbonne. Et on va voir que toutes les autres scènes des compagnons vont venir aussi de ce texte de Marc de Lisbonne. Le suivant. Alors, le suivant, il s'agit d'un frère, d'un des premiers compagnons de Saint-François, Fray Junipero, ou Juniper en français, qui était un moine très, très humble, très charitable, mais un peu extravagant. Ça irritait même ses compagnons. Mais François l'appréciait énormément, et Sainte-Claire l'appelait le ménestrel de Dieu. Et elle demanda même sa présence au moment de sa mort. Et voilà ce qu'on lit donc toujours dans nos chroniques, au livre 6, chapitre 40, je cite, que frère Juniper donnait tout ce qu'il avait et pouvait avoir pour l'amour de Dieu. Ce saint religieux était si pitoyable aux pauvres que quand il trouvait quelqu'un de mal vêtu, il décousait une partie de son habit et le lui donnait. Et pour ceux, qu'il faisait déjà ça souvent, s'en retournait à demi nu au couvent, et son gardien lui commanda par obédience qu'il ne donnât plus son habit ni aucune part de celui-ci. Dans ce commandement, rencontrant un pauvre fort misérable, lequel lui demanda l'aumône. Ému de compassion, il lui dit « Je n'ai rien à vous donner sinon cet habit, mais il m'est défendu par obédience d'en donner à personne. Néanmoins, si vous me l'ôtez, je vous promets que je n'en empêcherai pas. » Le pauvre, entendant ces paroles, lui ôta son habit, le laissa dépouiller presque nu. Puis, étant au couvent, il dit au religieux qu'un pauvre homme lui avait ôté son habit. De quoi le gardien ne sut que lui dire. C'est un... Et j'ai retrouvé dans Saint-Luc... À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donc il suit vraiment, donc il suit absolument les préceptes du Christ et de Saint François. Le suivant. Alors, il s'agit là d'un bienheureux frère Gilles en extase devant le pape Grégoire IX. C'était le troisième des 12 premiers compagnons. Vous savez, comme les compagnons, comme les apôtres, Saint François s'est entouré de 12 compagnons. Il était très humble, simple et illettré, mais c'était un grand contemplatif et il était très souvent favorisé d'extase. Alors ici, l'extase est montrée parce qu'il monte un petit peu au-dessus du sol. Je ne sais pas si vous voyez. Malheureusement, la plupart de ces tableaux qui ont été dehors très longtemps ne sont pas en très bon état. Donc, voilà. Et donc, on lit toujours dans le chronique de Marc de Lisbonne comment frère Gilles, étant devant le pape Grégoire IX, fut ravi en extase. Une autre fois, le dit pape étant allé au couvent des frères mineurs de Pérouse pour visiter frère Gilles, les religieux coururent aussitôt à la cellule pour l'en avertir, mais ils le trouvèrent en extase. Quand le pape entendit cela, il alla jusqu'à la dite cellule, accompagné de plusieurs cardinaux et autres seigneurs, qui tous s'arrêtèrent longtemps à le contempler, et même pour voir s'il ne retournait pas en soi, c'est-à-dire s'il ne reviendrait pas à lui. Mais voyant que ce ne serait pas de sitôt, le pape s'en alla avec sa compagnie, tout étonné et fâché, dans le sens de désolé, de n'avoir avoir pu lui parler comme il le désirait. Donc tout ça, on le trouve intégralement dans nos chroniques, que ce soit en portugais, en espagnol, en italien ou en français, avec cette traduction de 1622. Le suivant. Alors, c'est un des plus beaux tableaux de la série qui est conservé à Dresde. Alors, la plupart des tableaux, vous avez vu, avaient un format presque carré. Il y a deux formats qui ont un très long format. J'imagine que c'était les tableaux qui étaient le long de la partie étroite du cloître et donc qui devaient remplir pratiquement toute la travée. Et là, on va voir la mort de Sainte-Claire. Bon, vous savez qu'elle était la fondatrice de l'ordre des pauvres dames ou Clarisses, qu'elle est morte en 1253, qu'elle a été canonisée très vite en 1255 par le pape Alexandre IV, et tout le 8e livre des chroniques de Marc de Lisbonne lui est consacré. Alors, à la fin du livre, au chapitre 26, on trouve « Du trépas de la bienheureuse Vierge Sainte-Claire et de la vision qu'en eut une sienne religieuse ». Notre Dieu mit aussi la main sur une autre religieuse, laquelle vit de ses yeux corporels, parmi les armes qui en distillaient, qui en tombaient, une glorieuse vision. Elle, étant outrepercée de la sagesse de douleur, tourna la vue vers la porte de la maison. Elle vit entrer une grande procession de vierges, richement vêtues de blanc, ayant chacune une couronne d'or sur la tête. Mais l'une d'elles paraissait plus belle, somptueuse et brillante, car elle avait sur la tête une couronne impériale garnie de pierreries et faisait sortir de son visage une lumière si éclatante qu'elle convertissait l'obscurité en un jour clair et serein. C'était sans doute la glorieuse Vierge Marie, reine des Vierges, laquelle s'approcha du lit de l'épouse de son fils, laquelle, s'étant abaissée, elle embrassa gracieusement, et incontinent, elle fut couverte, et le lit aussi, par les autres Vierges, d'un manteau somptueux. Alors vous voyez à quel point on a un détail dans la suivante. Où vous voyez là, voilà, vous avez frère Juniper, les trois frères qui sont venus accompagner Claire pendant sa mort, dont frère Juniper. Vous voyez la seule religieuse qui regarde la Vierge, les autres ne voient pas la vision. Il n'y a que cette religieuse, et vous voyez comme le peintre suit exactement le texte, puisque la Vierge est des saintes vierges, des autres saintes, met un somptueux manteau sur le pauvre lit de Sainte Claire mourant. Enfin, le suivant, qui est donc le pendant, la cuisine des anges, qui est le pendant, puisqu'il a la même taille, ce sont des tableaux qui ont 4,50 m de long, 450 cm, ce sont des très grands tableaux. Celui-ci, vous le connaissez bien, puisqu'il est au Louvre, il est malheureusement en assez mauvais état. Et l'identification de ce moine en extase, vous voyez, qui est aussi élevé hors du sol, dans son extase, a été attribué à beaucoup de saints bienheureux qui figurent dans ce site, à Juniper, à Gilles, à Diel d'Alcala ou à Salvador de Horta. En fait, j'ai retrouvé cet épisode précisément décrit dans les chroniques de Marc de Lisbonne, en 2009, au moment de l'exposition del Joven Murillo, le jeune Murillo, dans la vie d'un bienheureux Benevenuto de Recanati, qui était cuisinier du couvent de sa ville natale. Car nous trouvons la description à nouveau très précise du tableau dans le livre 10 au chapitre 33. Ici, dans la traduction française, il est déplacé à la vie de saint François. Comme miraculeusement fut appareillé à manger, tandis que le cuisinier faisait oraison à l'église. Alors là, ils expliquent que c'est le chapitre 33 du 10e livre, transmis ici en son lieu. Saint François reçut à la religion un chevalier appelé Benvenuto. En français, ils ont traduit Benvenuto, mais c'est Benvenuto. Lequel, par sa grande humilité, était de demeurer toujours en la cuisine. Il arriva une fois qu'un bourgeois voulut traiter les religieux une matinée. À cet effet, il envoya de bonne heure ce qui lui semblait à propos, afin qu'il l'apprête à leur volonté. Ce que frère Benvenuto reçut, il lia le tout ensemble. Puis il s'en alla à la messe, où il fut ravi d'une telle oraison que tout au long du service, il demeura hors de soi, sans se souvenir de la cuisine et de rien au monde. La messe commençant, elle finit, revenu à soi, il se souvint qu'il avait encore à cuisiner la viande qu'on avait envoyée. Et néanmoins, il était l'heure de dîner. Pour ce, il s'en alla fort fâché à la cuisine, de laquelle, approchant, il y avait plusieurs personnes qui cuisinaient. Ce dont s'émerveillant, il ouvre la porte qui était fermée en dehors, à laquelle il avait la clé. est entré, il ne vit personne dedans. Mais il trouva seulement l'édit de viande apprêtée, comme il avait pensé les accoustrer, c'est-à-dire les accommoder, de quoi il rendit grâce à Dieu, de ce qu'il avait voulu suppléer à son défaut de par la main de ses anges. Alors, je crois que vraiment c'est la vision la plus précise de toutes les, celles qui ont été attribuées. Et c'est d'ailleurs à partir de cette recherche dans Marc de Lisbonne que j'ai pensé à rechercher les autres épisodes dans le dit Marc de Lisbonne et que j'ai tout retrouvé, toutes les scènes que vous avez vues défiler devant vous. En parallèle de ces premiers moines proches de Saint François, qui ont connu Saint François, qui ont été ses compagnons, les commanditaires vont choisir un certain nombre de frères de l'observance, évidemment, espagnols. La suivante. J'ai recherché beaucoup s'il y avait d'autres présentations de ce frère bienvenu, et j'ai trouvé uniquement cette gravure un peu sommaire, mais qui montre bien, il existait bien, il était considéré comme bienheureux dans l'ordre, qui était ce moine cuisinier qui avait des extases et qui était aidé par les anges. La suivante. Alors, il y a deux tableaux qui montrent que Saint Diego d'Alcalá, c'était vraiment le grand saint de l'observance espagnole. C'est un saint qui vit au XVe siècle, un très humble frère laid, dont on nous dit, se soumettant avec empressement à l'humble obéissance et l'observance régulière, a donné surtout à la contemplation, il reçut de Dieu les lumières si vives et si pénétrantes, qu'il parlait des choses du ciel d'une manière merveilleuse et toute divine, quoique n'ayant fait aucune étude littéraire. Il a exercé plusieurs fonctions dans l'ordre. Il s'est rendu en 1450 pour le jubilé et la canonisation de Saint-Bernardin de Sienne à Rome. Et rentré en Espagne, il a passé 7 ans au couvent de Santa Maria de Jesús, Sainte-Marie de Jésus, Alcalá de Henares, comme simple portier, mais en exerçant la charité de façon si extraordinaire qu'il a eu tout de suite une très très grande réputation. Alors on le voit dans deux scènes, d'abord nourrissant les pauvres, ce qui est assez touchant, c'est qu'on voit déjà ces enfants, qu'on aura beaucoup dans la peinture, ces enfants pauvres qui étaient des mendiants de Séville, qu'on aura beaucoup dans la peinture de Murillo par la suite, et de l'autre côté, le saint en extase, vous voyez qu'il est toujours 10 pieds au-dessus de terre, enfin quelques 20 cm au-dessus de la terre. À sa mort en 1463, son corps dégageait une douce fragrance et il fut visité par des cardinaux et des membres de la cour. On voit déjà qu'ils venaient le voir quand il était en extase. Le roi Philippe II, qui l'aimait beaucoup, fit porter son corps au palais et il obtint la guérison du pauvre Don Carlos qui avait eu un accident et qui était mourant. Donc Philippe II avait beaucoup d'admiration pour ce saint. Sa biographie a été établie très tôt par Don Francisco de la Peña, qui était promoteur à Rome de la cause de canonisation de ce seul saint canonisé au XVIe siècle. Ça, c'est extraordinaire, parce que de tout le XVIe siècle, un seul saint a été canonisé, Saint Diego d'Alcalá, en 1588 par le pape Sixte V. Alors, il existe de nombreuses vies du saint qui racontent ses miracles, mais on les retrouve aussi dans la troisième partie des chroniques de l'ordre des frères mineurs, qui était publiée un petit peu plus tard, en 1570, en espagnol. Il y a tout un livre 5 du chapitre 1 à 35 qui raconte tous les épisodes de ce grand saint. Alors à gauche, il fait la charité aux pauvres. À droite, il entre en extase, ce qui remplit d'admiration ses frères et des hommes de la cour, un homme en civil et un cardinal. Mais il a été très souvent représenté au XVIIe siècle par des peintres espagnols, mais aussi, suivante, par des peintres italiens, et je vous montre un cycle qui a été peint très tôt, en 1605-1606, peint par Annibal Carrache. C'était des fresques qui ont été détachées, qui sont réparties maintenant dans différents musées, enfin principalement à Madrid et à Barcelone, et qui avaient été peintes dans l'église Saint-Jacques des Espagnols à Rome. Donc, il y a notamment le miracle des roses, qui est le miracle qui est le plus souvent représenté pour Saint Diego d'Alcalá, qui est un miracle qu'il partage avec Saint Cassile, avec Sainte Élisabeth de Hongrie. C'est qu'il n'avait pas trop le droit de faire la charité à ce point-là, il donnait trop, et donc son supérieur lui interdit de donner de la nourriture, le croise et lui dit qu'est-ce que vous portez dans votre tablier, et bien que ce fût en hiver, il ouvre son tablier et il sort des roses. Donc ce miracle des roses est une des caractéristiques de ce grand saint qui est Saint Diego d'Alcalá. La suivante. Alors là, on a un épisode aussi très curieux de Saint Salvador de Horta et de l'inquisiteur d'Aragon. C'est aussi un simple frère laid, et on se rapproche beaucoup de l'époque des peintures de Murillo, puisqu'il est mort en 1567. Il était, il exerçait aussi des humbles fonctions de cuisinier ou de portier, mais on était obligé de le changer souvent de couvent parce qu'il avait tellement de succès, il attirait tellement de monde que les franciscains trouvaient que c'était quand même pas très bien et qu'il fallait le mettre dans un endroit où il serait plus humble. Et alors, le dernier couvent où il a été nommé, c'est à Horta, c'est pour ça qu'on appelle Saint Salvador de Horta. L'inquisiteur d'Aragon, qui est à Barcelone, c'est pour ça qu'il s'agit ici de l'inquisiteur d'Aragon, ne voulait pas croire qu'il attirait autant de gens et que c'était un saint thaumaturge qui guérissait beaucoup de monde, et ce qui expliquait son succès. Et donc il se déguise en simple pèlerin et il se rend auprès du couvent de Horta où le frère, malgré son déguisement très simple, évidemment il n'a pas tous les attributs du grand inquisiteur, reconnaît le saint et se met à genoux devant l'inquisiteur d'Aragon. C'est un saint qui a été très populaire dans les colonies américaines. Son culte a été autorisé très tôt, en 1605, mais il n'a été canonisé qu'en 1938. Et on a de lui une biographie de 1639 qui a été écrite par un frère de l'observance, naturellement, puisque c'était une de leurs vedettes, comme les autres sujets que nous allons voir maintenant. L'autre suivant. Alors ici, il s'agit d'un bienheureux Julien d'Alcala qui voit monter l'âme de Philippe II au ciel. Ce Julien d'Alcala était d'origine française. Il est mort en 1605. Vous voyez qu'on se rapproche, on dessine de plus en plus proche des peintures que nous voyons. Il était issu d'une famille française qui fuyait les Huguenots. Il est rentré comme frère laid à l'observance. Il avait des pénitences assez extraordinaires et une piété telle qu'il a été invité à la cour de Philippe II. Philippe II, souvent, je vous en ai parlé souvent, il est assez souvent mêlé à ces histoires avec les franciscains observants. Et le commanditaire de Murillo pour cette série a trouvé cet épisode dans un petit feuillet qu'on voit ici à droite, le fidèle et véritable récit de cet épisode, qui était quand même assez célèbre pour que Lope de Vega lui consacre une comédie en 1638. Et qu'est-ce que raconte cette histoire, qu'on retrouve aussi dans les chroniques de notre Saint-Père François, publiées à Valladolid en 1611, que l'on considère comme la continuation des fameuses chroniques de Marc de Lisbonne. Comme dans tous les tableaux de la série, Murillo reproduit avec exactitude la scène où le frère Julien voit, dans une espèce de gloire lumineuse, l'âme de Philippe II, par une nuit de septembre 1603. Je vous rappelle que Philippe II est mort en 1598, donc 5 ans de purgatoire, c'était pas mal. Et il raconte ça à 5 autres frères que vous voyez représentés. Donc chaque fois, il n'a pas de précédent iconographique, il ne peut pas s'inspirer évidemment d'une autre peinture ou de gravure qui aurait pu exister sur le sujet, mais il colle au sujet que lui ont fourni les pères commanditaires de l'observance. Et enfin, on va voir un autre tableau qu'on rattache maintenant à la série. C'est Saint François Solano et le taureau. Alors là, c'est tout à fait un autre personnage par rapport à tous ces frères laids qui sont très humbles, presque illettrés. Lui, au contraire, c'est quelqu'un d'assez savant. Il est né en 1549. Il est rentré dans l'observance à l'âge de 20 ans, il a passé plusieurs années en Andalousie comme prédicateur. Et en 1589, il s'est embarqué pour le Pérou quand Philippe II demande aux franciscains d'envoyer des missionnaires. Il y passe plus de 20 ans et il évangélise non seulement le Pérou, mais Tucumán et le Paraguay. Il avait appris plusieurs langues autochtones et il avait développé de très bonnes relations avec les populations locales. C'était un homme très franciscain, très proche de François, parce qu'il riait, il chantait, il dansait pour le Seigneur. Et surtout, il avait une grande amitié pour tous les animaux de la création, aussi bien les petits oiseaux que les bêtes sauvages. Là, vous le voyez, en fait, il a calmé un taureau furieux. Donc un peu, c'est pour rappeler Saint-François et le loup, naturellement. Et il a été extrêmement célèbre au Pérou. Il est mort en 1610. On lui a fait, à Lima, la ville des rois, des funérailles très importantes. La moitié de la ville y assistait. Mais il a été déclaré bienheureux qu'en 1675, canonisé en 1728, mais son culte s'est développé dans l'ordre. Et sa vie a été écrite par Fray Diego de Córdoba y Salinas. Alors ça s'appelle en espagnol Vida, Virtudes, Milagros del Apóstol del Perú, El Venerable Padre Fray Francisco Solano, la vie, les vertus, les miracles de l'apôtre du Pérou, le Vénérable Père Fray Francisco Solano, écrit évidemment par un frère de l'Observance, à Madrid en 1643. Je vous rappelle que le cycle est peint entre 1645, 46, peut-être 47 pour la mort de Sainte-Claire, qui est un tableau plus évolué. Alors, donc voilà cette vie que j'ai retrouvée, dans laquelle on raconte les différents miracles. Et c'est comme par hasard toujours des épisodes qui ne sont pas très fréquents. Même quand le saint était connu, le commanditaire a voulu choisir vraiment des épisodes qui collent avec ce qu'il voulait démontrer, c'est-à-dire il voulait montrer que les frères de l'Observance contemporains, là, le livre de 1643, étaient évidemment les seuls qui suivaient vraiment la règle de saint François. Les Alcantarins, les Capucins, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais c'était quand même pas eux qui avaient raison. Les vrais tenants, c'était les frères observants. Alors en choisissant ces frères mineurs de l'Observance, qui sont presque contemporains, enfin, ils sont Diego de Alcalá du 15e, les autres sont du 16e, meurent déjà au début du 17e siècle, il voulait insister sur le fait que les observants de Séville suivaient parfaitement l'idéal de saint François. Leur vie exemplaire et leurs miracles ressemblaient à ceux du saint fondateur et de ses premiers compagnons, tous bien connus à partir des fameuses chroniques de Marc de Lisbonne, historien de l'Observance franciscaine. Alors cette hypothèse que j'ai faite la première fois pour le jeune Murillo et la deuxième fois pour ce symposium international, elle n'exclut pas du tout les interprétations qu'on donnait avant, c'est-à-dire que les franciscains utilisent le pinceau de Murillo pour montrer toutes les vertus franciscaines de joie, d'humilité, de charité, mais aussi les phénomènes mystiques dont étaient favorisés leurs saints. Pour terminer cette causerie, je voudrais vous montrer, puisque quand même Murillo est le peintre des Immaculés, enfin, la suivante, un tableau que Murillo a peint aussi pour le même couvent, un petit peu plus tard, le tableau de 1553, et on voit un frère sévillan de l'Observance qui a publié en 1651 les gloires de Marie et qui est représenté avec l'Immaculée Conception. Ce thème de l'Immaculée Conception, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans l'ordre franciscain, car avec 250 ans d'avance sur la promulgation du dogme de l'Immaculée, les franciscains, et beaucoup d'Espagnols avec eux, puisque les rois d'Espagne avaient mis leur royaume sous la protection de la Vierge Immaculée, ont été des fervents supporters, je dirais, de l'Immaculée Conception. Et on va terminer avec deux tableaux qui représentent des Immaculées Conceptions de Murillo. Celle des Vénérables, elle a une histoire assez curieuse, parce qu'elle a été emportée par le maréchal Soult pour faire partie de sa collection. Elle a été revendue à la fin du 19e siècle. Ça a été le tableau le plus cher jamais vendu dans une vente aux enchères. Et en 1941, le tableau est retourné en Espagne parce que les Espagnols ont prouvé que c'était une prise de guerre et qu'il fallait le rendre. Et en échange, ils nous ont donné deux faux Velázquez. Voilà. Donc on s'est fait avoir sur toute la ligne. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe souvent. Et de l'autre côté, je vous montre, parce que j'aime beaucoup l'Immaculée de l'Escorial, il l'a peint plus jeune. Celle de gauche, elle est de 1685. Celle de droite, 1660. Et c'est une Immaculée très jeune, comme demandait Pacheco, qui précisait qu'elle avait 14 ans 3 quarts. Donc l'Immaculée Conception savait tout, et donc je pense peut-être qu'il a pris comme modèle une de ses petites filles, et c'est essentiellement par ses peintures d'enfants et par ses Immaculées Conceptions que Murillo est passé à la postérité, mais je pense que vous avez vu quand même au cours de ces tableaux, on n'a pas fait l'histoire de l'art là, on a fait l'histoire des sujets, qu'au départ c'est un peintre qui est très influencé par Sauvarin, avec des moines un peu, des peintures un peu sombres, un peu caravagesques, avec des, une certaine raideur, et vous avez vu que dans la mort de Sainte-Claire c'est déjà un peintre complètement lumineux, et bon, il y avait un peu trop de lumière pour que vous voyez bien les tableaux, mais je crois qu'on voit dans ce cloître pour les franciscains de Séville la naissance d'un grand peintre. Voilà, je vous remercie. Oui.